Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
7h41 à l'heure du Big Data, les algorithmes ont envahi presque tous les services en ligne, facilitant les services numériques qui nous entourent. Ils sont partout, depuis les choix de nos vidéos, les choix de musique que l'on peut faire sur Google, sur Facebook bien entendu, avec les actualités que nous lisons au travers de ces services. Et désormais, toutes les données émises par les utilisateurs d'outils informatiques deviennent potentiellement susceptibles de nous identifier, d'anticiper nos goûts, nos désirs et nos choix, tout autant que nos comportements futurs. Alors faut-il redouter cette évolution ? Pour en parler, nous sommes en compagnie d'Antoinette Rouvroy. Bonjour. Vous êtes chercheuse au Centre de Recherche d'Information, Droit et Société de l'Université de Namur. Et puis nous sommes également en compagnie de notre camarade Xavier Delaporte. Antoinette Rouvroy, tout d'abord, une définition. Qu'est-ce qu'un algorithme ?
Bon, alors une définition très classique de l'algorithme, bien c'est une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions qui permettent de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat indépendamment des données dont on le nourrit. Alors l'algorithmique, c'est le domaine qui étudie les algorithmes, hein. Alors un algorithme, l'exemple le plus classique et le plus bénin des algorithmes, on va dire, c'est la recette de cuisine, hein. C'est l'exemple tout à fait classique. C'est un algorithme qui généralement est exécutable par tout être humain normalement constitué à partir d'un certain âge. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup d'algorithmes dans le domaine informatique. Alors, les algorithmes informatiques ont des particularités dont on parlera, je pense. Hein.
Qu'est-ce qui distingue un algorithme d'un programme ?
Alors, je dirais que un algorithme a comme finalité d'obtenir un résultat, de réaliser une tâche, c'est-à-dire de résoudre un problème. Tandis qu'un un programme peut très bien tourner en boucle sans produire nécessairement de résultat. Voilà. Mais c'est une définition qui est une définition un peu de nuance, qui n'est pas absolument indispensable.
Il y a une première caractéristique dans les algorithmes, c'est que les algorithmes ont souvent une vertu, ou en tout cas on leur prête une vertu prédictive. Par exemple, dans la détection ou dans la surveillance de la délinquance, écoutez par exemple l'évocation d'un algorithme nommé Corto.
C'est un logiciel qui centralise l'information. Chaque partenaire déclare des événements qui sont susceptibles d'être liés à des phénomènes de délinquance. L'ordinateur nous montre une carte. Nous sélectionnons des items déclarés par la police nationale et des items déclarés par les sapeurs-pompiers. Et l'ordinateur va aller rechercher les 1875 faits déclarés par les sapeurs-pompiers et la police nationale. Et je peux demander à ce logiciel de me faire de l'analyse, c'est-à-dire de me regrouper les éléments pour faire apparaître sur le territoire les lieux à problématique. Connaissant ces informations, nous allons pouvoir agir via les services prévention pour faire des présences humaines à tel ou tel endroit de la ville. On va adapter en permanence nos dispositifs.
Alors voilà, on a vraiment l'impression que c'est de la sorcellerie, c'est-à-dire qu'on a la capacité, dit-on, de prévoir les lieux où il y aurait des problèmes de la délinquance. Et c'est en cela qu'un algorithme, ça n'est pas seulement une suite d'opérations stupides, mais quelque chose auquel on peut prêter une forme d'intelligence, Antoinette Rouvroy.
Alors, l'intelligence n'est pas nécessairement tant dans l'algorithme que dans les données. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de data-driven society aujourd'hui, donc de société gérée par les données, disons, ou d'intelligence des données, mais pas d'intelligence d'algorithme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons à notre disposition, pour des coûts relativement bas, des quantités massives de données très peu structurées, de données de provenances diverses. On pense évidemment à toutes les données que nous lâchons sur les réseaux sociaux, mais aussi les données qui sont enregistrées par des caméras de vidéosurveillance dans l'espace public, les données qui proviennent des administrations publiques, enfin, toutes sortes de données qu'effectivement un être humain serait incapable d'analyser tant elles sont nombreuses, variées, complexes et tant ces bases de données sont extrêmement plastiques en extension, c'est-à-dire qu'elles s'enrichissent en temps réel, donc c'est une réalité extrêmement complexe qui en même temps passe pour beaucoup de gens pour quelque chose de presque total, exhaustif. On a cette idée tout à fait fausse en fait que aujourd'hui, les données sont exhaustives. On parle de big data et cette exhaustivité fait qu'on a l'impression qu'on pourrait finalement non seulement analyser le présent et le passé, mais aussi prédire l'avenir au départ de ces données qui en viennent à remplacer notre idée du réel. Hein. Alors, comment ça se passe, ces prédictions? Eh bien, tout simplement, on ne s'intéresse plus du tout aux causes des phénomènes pour prédire leur éventuelle survenance. Les quantités massives de données nous permettent d'avoir de nouvelles pratiques statistiques qui consistent essentiellement à faire détecter automatiquement, au sein même des quantités massives de données, des corrélations. Des corrélations, ce ne sont jamais des causes, mais c'est-à-dire des co-occurrences statistiquement signifiantes entre des éléments sans lien entre eux et qui donc permettent de détecter ce qu'on appelle des modèles ou des profils, des patterns, on dit en anglais, et ces patterns vont être plus ou moins prédictifs.
Alors, venez justement de souligner, Antoinette Rouvoy, un premier problème, puisque vous dites que les corrélations ne sont pas des causes. On connaît même un certain nombre de corrélations sans cause. Et est-ce que le fait d'utiliser des algorithmes sur des sujets qui sont des sujets extrêmement sensibles, par exemple la détection de la délinquance, n'est pas là aussi une source potentielle d'erreur?
Alors, on ne parle plus tellement d'erreurs dans le domaine de l'algorithmique, surtout quand on parle d'algorithme auto-apprenant. C'est vers ça qu'on va, progressivement.
Auto-apprenant, c'est-à-dire un algorithme qui est susceptible de se perfectionner lui-même?
De se perfectionner lui-même en fonction, justement, de ses essais-erreurs. Donc, plus il rate, plus il réussit, en quelque sorte. Donc, chaque erreur est une occasion d'affiner l'algorithme, si vous voulez. Mais on n'en est pas encore tout à fait là. Donc, aujourd'hui, il y a encore ce qu'on peut appeler, appeler effectivement des erreurs, mais cette notion d'erreur est vraiment toute relative, même aujourd'hui quand on n'est pas encore tout à fait dans les algorithmes auto-apprenants, car ce qui est recherché par cette nouvelle rationalité algorithmique, ce n'est certainement pas l'adéquation de la prédiction au réel. C'est plutôt une sorte de fiabilité sans vérité, on pourrait dire. Ce qu'on vise à faire, notamment dans le domaine de la sécurité, c'est ratisser large, par exemple. Si on prend les applications sécuritaires, prévention du terrorisme, ce genre de choses-là. Mmh. Donc, on tolère énormément de faux positifs, puisque l'objectif à atteindre, c'est le risque zéro, par exemple. Si on utilise des algorithmes dans le domaine médical, par exemple, pour détecter quels sont les patients qui sont les plus susceptibles de bénéficier de certaines thérapies de pointe, à ce moment-là, on va tolérer beaucoup moins de faux positifs. Donc, vous voyez, c'est toute une question, finalement, la question de la finalité, non pas vraiment du traitement algorithmique des données, mais de la finalité du projet, finalement, qui est derrière l'utilisation des algorithmes, garde toute sa pertinence.
Xavier Delaporte.
Ouais, justement, c'est quoi le projet qui est derrière ça? Comment est-ce qu'on en est venu et on en vient progressivement de plus en plus à croire, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas à penser que c'est un mode de gestion des politiques publiques et pas simplement qui pourrait être plus efficace que d'autres?
Alors, je pense que le projet, il ne se dessine finalement qu'en creux. Tous ces dispositifs algorithmiques sont essentiellement des dispositifs qui nous dispensent, nous, êtres humains, de faire un certain nombre de choses, comme de détecter, de classer, d'anticiper les événements, mais aussi de faire du projet, dans certains cas. On prétend gouverner à partir des données, c'est-à-dire à partir du réel lui-même. Comme Thomas Berns, mon collègue de l'ULB, le disait, gouverner sans gouverner. C'est bien ça l'un des objectifs. Alors, cet objectif est extrêmement symptomatique d'une crise assez généralisée de la représentation. L'idée qu'on puisse gouverner à partir des données, comme si les données remplaçaient le réel, c'est l'idée qu'on pourrait enfin avoir un accès immédiat au réel lui-même, un accès émancipé même du langage.
Mais
on
n'aurait
même plus besoin
de
passer par le langage.
Supplémentaire dans le scientisme ou dans le positivisme, qui considère non seulement que la science peut tout, mais qu'il y a quelque chose qui s'appelle la réalité qu'on peut manipuler et influencer.
Tout à fait. Ça présuppose évidemment qu'on a une idée, qu'on a l'idée qu'effectivement il y a une réalité tangible et non ambiguë à laquelle on pourrait accéder. Mais ça suppose aussi le retour d'un certain comportementalisme. Moi, je parle de comportementalisme numérique.
C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'il suffirait d'observer les données, d'observer les traces que laissent involontairement. Ce sont toutes des transcriptions tout à fait involontaires, hein, ces données que nous laissons notamment sur les réseaux sociaux. Il suffirait donc de de les analyser pour savoir ce dont sont capables les corps. On ne parle même plus de personne ici. On traverse complètement la personne puisqu'on n'interroge plus, les personnes sur leurs intentions, sur leurs rêves, etc. Leur désir, en quelque sorte, les précède puisque ces algorithmes sont capables de détecter les propensions, les intentions, etc.
Les intentions et aussi les goûts, puisque cela, c'est un véritable enjeu sur le terrain culturel cette fois-ci. Écoutez l'ancienne ministre de la Culture, Fleur Pellerin.
Je crois pour ma part qu'il faut continuer à travailler avec les libraires, avec les éditeurs, travailler notamment avec les libraires sur les questions de formation, parce que nous l'avons vu ensemble vendredi, rien ne remplacera jamais la médiation offerte par un libraire par rapport à un algorithme froid et automatique. Et je crois que nous devons ensemble, avec le Parlement et bien sûr tous les libraires indépendants qui souhaitent pouvoir ajuster leur modèle à la transition numérique, continuer à aller de l'avant pour soutenir financièrement les librairies, mais aussi pour travailler sur des questions de formation afin de les accompagner dans la transition numérique.
Alors là, Fleur Pellerin vise quelque chose de très particulier qui est présent sur Amazon comme sur la plupart des sites de vente en ligne. C'est ce qu'on appelle le filtrage collaboratif. Donc l'idée qu'on va suivre en quelque sorte les choix que vous avez faits précédemment ou les articles que vous êtes allés voir et qu'on va vous proposer d'acheter tel ou tel livre, telle ou telle musique avec à la clé le risque que finalement cet algorithme il ne soit pas objectif puisqu'aucun algorithme ne l'est, mais qu'il spécialise ou qu'il façonne vos goûts de manière finalement assez étroite avec un risque à la clé pour en quelque sorte l'écosystème culturel. Antoinette Rouvroy.
Oui, alors c'est un risque qui a été fortement dénoncé, notamment par Kassenstein, mais par bien d'autres, ce risque de la bulle filtre et de l'enfermement de chaque individu dans lui-même. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression que dans un tel contexte algorithmique, chaque personne devient sa propre référence statistique. Alors c'est vrai et ce n'est pas vrai. C'est vrai dans un certain nombre de cas. Par exemple, si l'algorithme, ça dépend du paramétrage bien entendu, si l'algorithme simplement vous rappelle vos choix anciens, effectivement ça vous enferme, vous, dans vos propre trace algorithmique. Par contre, si ça vous met dans une sorte de collectif, mais c'est un faux collectif, bien sûr, vous ne savez pas qui sont les personnes qui sont avec vous, catégorisées par l'algorithme de la même manière que vous. Ça n'a rien de collaboratif. Hein, je tiens à le dire, il y a beaucoup les mots sont mal utilisés ici. Ça n'a absolument rien de collaboratif. Ça reste très individualiste. Ça reste de l'hyper-personnalisation. Par contre, si l'algorithme au lieu de vous analyser, vous analysez par exemple le rythme des morceaux de musique que vous aimez, ça pourrait vous faire découvrir des choses neuves. Une personne qui n'écouterait que de la musique baroque par défaut pourrait vouloir écouter de la musique rock parce que les rythmes sont plus ou moins les mêmes. Donc il y a aussi des vertus à ces algorithmes de temps en temps.
Alors l'application Spotify, qui est justement une application musicale, utilise évidemment un algorithme pour anticiper les goûts musicaux des utilisateurs.
We analyze what people might like, and then they didn't even know they did.
Nous analysons ce que les gens pourraient aimer alors qu'ils ne le savaient pas eux-mêmes. Je trouve ça plutôt génial, même si c'est vrai que ça fait un peu peur. Comme si on savait aujourd'hui tout des utilisateurs, mais on ne sait pas vraiment tout d'eux. On formule plutôt des hypothèses et les données étayent ces hypothèses. Donc je pense que tout va bien.
The big media companies are going to be using deep learning algorithms in order to.
Très bientôt, les grandes sociétés de médias utiliseront des algorithmes intelligents qui indiqueront aux responsables quel artiste faire signer et quelle chanson choisir pour les sortir sous forme de single. Les algorithmes finiront même par essayer de prédire l'évolution des hit-parades.
Xavier Delaporte.
Oui, il y a quelque chose d'étonnant dans tout ça, et ça recoupe à la fois ce que disait la ministre tout à l'heure, l'ancienne ministre Fleur Pellerin, et ce que viennent dire là les gens de Spotify, qui est la tendance qu'on a à considérer qu'il y a une intention en elle-même dans l'algorithme, indépendamment de ceux qui l'ont programmé. Fleur Pellerin parlait d'algorithme froid. Comme si l'algorithme était en lui-même un être sans sang, voilà. Et là, on dit qu'on peut faire des choses à l'algorithme, mais tout ça me semble oublier le fait que l'algorithme est programmé par des gens. Et par exemple, c'est le cas très intéressant des algorithmes qui distribuent les élèves et les étudiants, soit dans le lycée, soit dans les facs, qui sont souvent considérés comme justement des décisions froides et impersonnelles, alors qu'ils sont fabriqués, qui font l'objet d'un travail qui est de l'ordre l'ordre politique. Comment on est passé à cette idée que les algorithmes fonctionnaient quasiment comme des êtres autonomes en oubliant qu'ils étaient programmés par des gens ?
Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a là derrière une sorte de, j'ai l'impression, d'animisme informatique. On prête des intentions à ces objets qui ne sont même pas réellement des objets. Hein, ce sont des suites d'instructions. Et c'est assez particulier. Ça montre bien, ça confirme en quelque sorte le caractère très symptomatique de cet engouement pour les algorithmes et la gouvernementalité algorithmique, comme on l'appelle. Symptôme donc du fait que nous aimerions bien nous décharger, nous, de toute une série de responsabilités, y compris la responsabilité de nous gouverner nous-mêmes et de gouverner nos goûts nous-mêmes. Il y a quelque chose de très amniotique là-dedans, et on aime en quelque sorte, en fait, on aime la surveillance. Il y a une passion pour la surveillance de nous-mêmes par quelque chose de transcendant, hein, qui nous guiderait pas à pas, mais qui ne serait pas tout à fait identifié. Il n'est pas du tout question ici si vous voulez, l'autorité n'est plus assumée par aucune figure concrète. Et cette absence de figure concrète est très bien figurée, en quelque sorte, par l'algorithme. Il y a une passion pour la surveillance de nous-mêmes, la surveillance d'autrui aussi, avec ces systèmes de jeu. Enfin, c'est un petit peu en dehors du sujet, mais quand même, c'est très proche. L'idée qu'on puisse géolocaliser nos proches grâce à leur GSM, on parle de GSM en Belgique, on dit plus ça en France.
Leur téléphone portable.
Le téléphone portable. Tout ça, effectivement, va un peu dans le même sens.
Mais quand vous dites que l'algorithme, finalement, n'est qu'une sorte d'outil, ou qu'en tout cas, on ne peut pas avoir une attitude animiste vis-à-vis de lui, on voit dans l'actualité un certain nombre d'exemples. J'en prends un, celui où c'est un algorithme qui est chargé de la mixité sociale et de l'orientation des élèves. Et donc là, on voit qu'on a affaire à plus qu'un outil, puisque tout simplement, un individu n'arrive pas à lutter contre cet algorithme. Un individu est complètement impuissant, ça n'est pas l'administration. L'administration, elle est composée d'hommes, et avec les hommes, on peut négocier. Avec une machine, vous ne négociez pas. Et c'est ça qui fait peur, parce qu'on a l'impression que le destin des enfants dépend aujourd'hui d'une machine.
Tout à fait. C'est effectivement la disparition du sujet qu'on assiste à mon sens. C'est-à-dire que pour orienter les personnes, par exemple, on ne va plus se confronter à elles. On va plutôt essayer de traverser ce qu'on appelait autrefois le masque social, la persona. La notion de persona comme masque social disparaît complètement. On va lire automatiquement vos données. C'est avec cette idée que parce qu'elles sont invisibles, parce qu'elles sont imperceptibles au sens ordinaire, eh bien, elles disent quelque chose de beaucoup plus vrai à votre égard, à votre propos, que ce que vous pourriez en dire vous-même. Donc effectivement, ce qui disparaît, c'est la possibilité pour les individus, pour les personnes, de rendre compte d'elles-mêmes, de rendre compte par elles-mêmes de ce qui les fait agir, de ce qu'elles veulent, de ce dont elles sont capables. Au contraire, cette rationalité algorithmique vise en quelque sorte à leur faire perdre la voix. La voix n'a plus de poids, pas plus que l'expérience d'ailleurs. Vous avez beau avoir une expérience, un CV magnifique, on va lire dans vos données que vous n'êtes pas un employé fiable parce que vous êtes présent sur 5 réseaux sociaux et que vous êtes plus ou moins touristes sur certains réseaux sociaux, plus ou moins accrochés à d'autres, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment la disparition de la personne comme masque social.
On continuera à en parler vers 8h20, Antoinette Rouvroy. Nous serons rejoints par un informaticien, Serge Habitboul, qui est professeur à l'ENS Cachan, et on continuera à évoquer à la fois les applications permises par ces algorithmes, mais aussi les risques, les périls, et en tout cas les modifications qu'ils vont induire dans notre vie quotidienne et notre vie sociale.